chef de file des soins infirmiers, assurant la sauvegarde des hautes normes de qualité, cherchant à promouvoir l'enseignement, la recherche, l'encadrement, le soutien et le développement des compétences et de l'excellence clinique. Nous sommes la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Est-Richu. Bienvenue à Savoir et Stéthoscope.
Bonjour et bienvenue à ce quatrième épisode du balado Savoir et Stéthoscope, voyage au cœur de la pratique infirmière auxiliaire. Je suis Sophie Martin.
Et moi, c'est Julie Blanchette, donc toutes deux conseillères en soins infirmiers.
Je suis très heureuse de te retrouver, Julie, pour cet épisode qui va nous permettre d'explorer la diversité de la pratique et différents milieux stimulants et même parfois pas très connus ou pour lesquels on aimerait bien savoir à quoi ça ressemble.
Oui, parce que dans nos premiers épisodes, je me souviens, on avait eu des balados où on explorait justement la diversité de la pratique plus infirmière. On est allé en centre jeunesse, en clinique de réfugiés. Tu as rencontré l'équipe PEP, qui est le premier épisode psychotique, l'équipe d'hébergement, aussi santé mentale et autres milieux. Puis à la deuxième saison, on a été voir la pratique infirmière, mais plus en première ligne. Alors, je suis impatiente de voir où est-ce que tu nous amènes aujourd'hui, Sophie?
Ben, je vous amène en voyage au cœur de la pratique infirmière auxiliaire. Nous allons rencontrer des infirmières et des infirmiers auxiliaires pour découvrir à quoi ressemble leur journée dans leur milieu.
Donc, attachez vos ceintures, le balado Savoir et Stéthoscope, ça commence maintenant.
Nouveauté, développement, accomplissement. Quoi de neuf à la DSI?
Donc, un projet pilote concerne un nouveau titre d'emploi pour les infirmières et infirmiers auxiliaires chefs d'équipe, donc les IACE, qui est présentement en élaboration par la Direction de l'hébergement et des soins de longue durée en collaboration avec la Direction des soins infirmiers. C'est un projet pilote qui va prendre en effet naissance pour commencer donc les CHSLD, les maisons des aînés et alternatives, de même que les maisons des aînés tout court. Et nos IACE auront comme principal mandat justement de soutenir et consolider le développement des connaissances et compétences des nouvelles infirmières et infirmiers auxiliaires qui ont 2 ans et moins d'expérience pour leur permettre de vivre une expérience d'intégration qui va être plus enrichissante et espérant ainsi favoriser leur rétention aussi. Et par ailleurs, nos IACE vont aussi être amenés à contribuer à l'amélioration continue des pratiques cliniques, comme par exemple d'agir comme personne ressource lorsque survient des changements de pratique ou encore des nouveaux documents d'encadrement clinique. Et bien sûr, tout ça va s'effectuer en complémentarité avec les gestionnaires des secteurs, mais aussi les assistants-assistantes des supérieurs immédiats, donc nos ASI, et l'équipe, bien sûr, de la DSI, dont les conseillères en soins infirmiers et les conseillères cadres cliniciennes selon les besoins. Alors, il s'agit bien sûr d'un nouveau projet pilote qui nécessitera assurément des ajustements. Il y a de la formation qui est prévue là, pour ces infirmières et infirmiers auxiliaires d'expérience qui voudront bien sûr se porter volontaires. Alors, restez à l'affût. Dans l'épisode d'aujourd'hui, qui sera un voyage au cœur de la profession infirmière auxiliaire, on va être toutes les deux, moi puis Sophie, en studio. Bien sûr, avec notre collaborateur Jess Fafard-Théoret, qui pilote l'enregistrement et qui est toujours présent dans nos épisodes.
Bonjour, mesdames.
Oui, merci.
Effectivement, Julie, bien qu'il ne soit pas en studio avec nous, nous allons vous amener rencontrer une multitude d'invités qui nous ont ouvert l'accès à leur milieu pour nous partager leur quotidien. Aujourd'hui, c'est nous qui allons nous rendre à nos invités. J'ai contacté Annick Lefebvre, qui est infirmière auxiliaire au CIUS de l'Estrie depuis plusieurs années. On a été orientés il y a plusieurs années au bloc opératoire de l'Hôtel-Dieu en même temps. Depuis que j'ai fait sa connaissance, je l'ai croisée au fil des ans sur différentes unités. Ça me faisait toujours rire de la trouver soit sur une unité de chirurgie, en néonatalogie, soit à la maison des aînés. Et récemment, je l'ai rencontrée à la clinique de chimiothérapie ambulatoire. Elle m'a toujours inspirée par son énergie positive, puis je vous invite à aller faire sa connaissance.
Moi, c'est Annick. Je suis infirmière auxiliaire au CHU depuis 2008. J'ai commencé, bien évidemment, comme tout le monde, équipe volante relève. Là, on allait déjà un petit peu à tous les étages. Ça n'a pas pris tellement de temps. Tout genre, peut-être 8 mois, j'ai eu mon poste. C'est le premier poste qui t'offre, que tu es obligé d'accepter. Puis je m'en rappelle, c'était un message sur mon répondeur. Puis là, j'étais terrorisée, je ne savais pas ça serait quoi. Finalement, c'était équipe volante de jour. Fait que là, j'ai commencé. Tu sais, là, ils m'ont formée, je pense que c'était au 6e A en neurologie. Là, j'ai commencé là. Après ça, j'allais au 7. Là, après ça, ben, ils donnent un petit peu plus d'étages. Fait que je les ai tous faits. Puis, j'ai fait ça quelques années. Puis, quand c'était les auxiliaires plus... tu sais, qui voyaient qu'on restait équipe volante, bien là, ils ont commencé à nous donner un petit peu des spécialités. Fait que là, moi, ils m'avaient offert la néonate. quelques années après, ça a été la même chose, mais pour le bloc opératoire à l'Hôtel Dieu. Ils m'ont demandé si je voulais être formée. Fait que là, j'ai intégré ça en plus. Fait que là, j'avais plusieurs spécialités, la néo, le bloc. Puis je continuais tous les étages ici, là. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé ça, être équipe volante. Je pensais peut-être rester équipe volante tout le temps. On voit plein de spécialités qui sont vraiment différentes. On connaît beaucoup de monde, on voit beaucoup de médecins. Après ça, c'est plus facile aussi d'associer les noms des médecins aux spécialités. C'est sûr qu'il ne faut pas être gêné de poser des questions parce que tu ne connais pas les choses à 100%. Tu ne peux pas connaître tous les protocoles de tous les étages.
Donc, on voit qu'Annick met déjà la table sur plusieurs possibilités de milieu là, dans la profession d'infirmière auxiliaire. Être équipe volante, quand on commence la profession, ça peut faire peur à plusieurs personnes. Bien, je trouve ça intéressant de voir que son expérience a été positive.
Oui, elle a vraiment aimé ses 15 ans comme équipe volante et même une référence pour ses collègues d'oncologie qui le savent. Lorsque j'étais avec elle, une infirmière est venue lui poser une question sur un médicament disponible à l'étage. Mais Annick a même pu lui dire à quel endroit, dans quelle armoire, elle pouvait le trouver.
C'est bon, ça.
Puis là, maintenant, je suis au centre de chimio depuis un an. Je fais l'étage, puis la clinique d'hémato. Puis j'aime vraiment ça. Là. On a plusieurs postes comme infirmière auxiliaire. On peut être, entre autres, au prélèvement. Fait qu'on fait des prises de sang toute la journée. On peut être aux injections sous-cutanées là, d'immunothérapie. Fait que... au triage, en oncopède, les fins de semaine, on va à l'étage. Puis c'est souvent la même clientèle là, qui revient. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Je devrais rester ici jusqu'à la fin. Il y a le triage. Le triage, on est des infirmières auxiliaires et des infirmières. Fait qu'on s'assure de voir les patients avant qu'ils aillent à leur traitement. Puis on les questionne par si leur traitement, leur dernier traitement, qui était il y a quelques jours ou quelques semaines, leur a donné des effets secondaires. Pour qu'on puisse intervenir, là, appeler le médecin ou si leur état n'est pas assez bon pour recevoir leur traitement. Fait qu'il faut aviser. Là. Fait qu'on analyse un peu leur situation. On les dirige des fois vers les infirmières pivots. On peut faire de l'enseignement. Par exemple, s'ils ont des nausées... on leur propose des plus petites quantités de nourriture, mais plus souvent. Il faut des petites choses comme ça. Puis on prend des signes vitaux, puis on leur donne notre accord là, pour passer au centre de chimio. Ensuite, il y a la station sous-cutanée. Ça, c'est de l'immunothérapie qu'ils reçoivent en injection sous-cutanée. C'est le même principe. Ils peuvent venir là, selon leur cycle à tous les jours pendant une semaine. On a une belle proximité avec les patients parce que je te dis, ils reviennent, tu sais, il y en a que c'est à tous les jours, puis ils reviennent aux 3 semaines, fait qu'on les connaît bien, 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 ils nous jasent, puis ils sont contents quand même malgré tout de nous voir, là, fait que, j'y connais beaucoup, là, ça c'est bien fun.
Bon, maintenant, on va prendre l'ascenseur pour aller rencontrer Sonia, qui est infirmière auxiliaire sur l'unité du 9e C à Fleurimont, donc une unité de cardiologie principalement, et ça depuis 16 ans.
Oui, puis c'est d'ailleurs son équipe qui lui a démontré de la reconnaissance et qui l'a identifié comme un beau modèle de rôle pour nous parler de ce qu'elle fait comme infirmière auxiliaire dans son quotidien. On l'écoute.
Moi, c'est Sonia. Je travaille comme infirmière auxiliaire au 9e C. On fait de la chirurgie cardiaque, de la cardiologie, un peu de chirurgie thoracique et vasculaire. Ce qu'on fait ici, en gros, le matin, on prend le rapport avec l'infirmière, on fait une tournée en équipe, on travaille quand même vraiment beaucoup en équipe. L'infirmière évalue le patient, prend des signes vitaux, on prépare les médicaments du matin. Après ça, c'est la tournée de pansements, s'il y en a des pansements à faire. Puis toute la journée, on travaille en collaboration avec l'infirmière pour l'évaluation des patients, les évaluations de douleurs, les dossiers, puis vraiment un bon travail d'équipe. En chirurgie cardiaque, les patients viennent juste ici, juste au 9e, donc c'est vraiment spécifique à la chirurgie cardiaque. On peut, avec l'aide de l'infirmière, faire l'évaluation des plaies de chirurgie cardiaque pour les retours à domicile, fiches réseau, suivi TLSC. Les enseignements de départ, les gens qui partent à la maison, qui comprennent bien comment ça va se passer, parce que souvent, ils sont très anxieux de partir à la maison. Fait qu'on leur explique vraiment les symptômes à surveiller quand ils communiquent avec nous, parce que quand ils partent, ils ont comme une petite carte avec un numéro qu'ils peuvent appeler un infirmier praticien spécialisé en chirurgie cardiaque. Fait qu'on leur dit, ben pour tel, si jamais vous faites telle chose, vous allez à l'urgence, puis ouais, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et pas faire. Comme on fait beaucoup de chirurgie spécialisée, on a certains médicaments qu'on donne vraiment beaucoup plus ici en chirurgie cardiaque. Il faut observer, mettons, comme nous, c'est des poux apicales à tous nos patients parce qu'ils, peut-être qu'ils ne feront pas d'arythmie, mais post-op, ils peuvent développer de la fibrillation auriculaire. Fait qu'il faut vraiment prendre toujours des poux apicales pour être sûr que notre patient ne tombe pas en arythmie, comme on dit, là.
Donc, les infirmières auxiliaires sont présentes vraiment partout dans le système de santé. Elles ont développé là, une expertise en première ligne, autant que ce soit en GMF, soins à domicile ou comme nos prochains invités, à la clinique IPS de Sherbrooke pour collaborer avec les infirmières praticiennes spécialisées. Alors, on va aller jaser avec David et Karine.
David.
Karine.
Infirmière auxiliaire à la clinique IPS depuis l'ouverture, c'est en septembre 2024, je crois, oui.
Donc, moi aussi, à la clinique IPS au 50 Camiran depuis mars 2026, donc c'est tout nouveau.
Beaucoup de collectes de données avec les IPS parce qu'on a des sans rendez-vous gap là, avec le 811. On fait des techniques sur demande si on a besoin, comme lavage d'oreilles. On fait de la cryothérapie aussi en association avec le gap.
On donne des vaccins.
Des prises de sang. On assiste à... Des fois, il y a des chirurgies, des petites chirurgies. On assiste les IPS.
Je leur ai demandé de nous partager à quoi peut ressembler la trajectoire du patient qui vient à la clinique IPS, par exemple, pour faire un traitement de cryothérapie.
Première chose, dans le fond, c'est qu'on le reçoit. On prend une petite collecte de données en lien avec la raison pour laquelle il y a besoin de cryothérapie. On va... chercher une IPS qui est de garde, qui va valider le tout, puis approuver si à ce moment-là on peut procéder à un émondage, qui est un retrait de peau, puis par la suite une cryothérapie. Donc, une fois que ça c'est fait, bien, on refait valider à nouveau par la même IPS qui est de garde, puis peut confirmer si à ce moment-là le traitement est efficace, qu'est-ce qu'on peut combiner avec les traitements de pharmacie. Qu'est-ce qu'on peut aussi faire? Est-ce qu'il y a besoin d'un prochain rendez-vous éventuellement? Donc, en gros, c'est ça.
La job ici à la clinique PS, ça ressemble beaucoup au travail d'un auxiliaire en GMF. Sauf qu'il n'y a pas de médecin, c'est juste des IPS. C'est une petite équipe, c'est moins gros. Mais c'est sensiblement les mêmes choses là, qu'on fait à la collecte de données, comme les cliniques de 100 rendez-vous, chirurgie. Puis gros, des techniques là, qu'on fait à la demande, des demandes ponctuelles.
On fait aussi des ITH, c'est ça?
Oui.
Qui est indice tibio-huméral. Donc, qui sert à prendre des pressions au niveau des bras, des mollets. Chez les patients, donc aux quatre membres. Ça nous donne des chiffres, on fait des moyennes, puis ça nous permet de dire aux patients si oui ou non, bien, l'IPS va transmettre l'information, mais si oui ou non, il peut avoir besoin de bas compressif ou s'il peut avoir quelque chose au niveau du retour veineux, là, circulation sanguine.
Alors, la diversité de la profession d'infirmière auxiliaire offre l'opportunité de pratiquer dans plein de milieux différents. Là. Puis on le réalise déjà dans notre voyage d'aujourd'hui. Mais toute nouvelle profession commence par de la formation. Alors, on a Valérie Compagna, qui est maintenant enseignante au Centre 24 juin à Sherbrooke, pour permettre aux étudiants d'apprendre les bases du métier. On va aller la rencontrer pour savoir comment ça se passe comme enseignante dans les cohortes du futur là, infirmier et infirmière auxiliaire.
Moi, c'est Valérie Compagna. Moi, j'ai fait mes études ici au Centre 24 juin. En fait, j'ai terminé en 2001 comme infirmière auxiliaire. J'ai travaillé 6 ans dans le milieu hospitalier au CIUS. J'avais un poste en santé mentale. J'ai travaillé en chirurgie, en cardio, clinique externe aussi. Puis après ça, j'ai décidé de faire le saut en enseignement. J'enseigne depuis 2007. J'ai un poste ici au 24 juin comme enseignante permanente. Donc, c'est pas mal ça, mon parcours comme infirmière auxiliaire. Puis après ça, comme enseignante, bien ici, j'enseigne autant en théorie qu'en laboratoire. Puis je fais des stages dans le milieu parce que j'aime encore être auprès des patients puis démontrer des apprentissages aux élèves.
J'étais intéressée de savoir comment, comme enseignante, elle pouvait faire découvrir la diversité de la pratique infirmière auxiliaire à ses étudiants et étudiantes.
En fait, on en parle beaucoup dans nos cours théoriques dès le départ. Puis quand on va en stage, on essaie d'ouvrir un peu de nouveaux horizons. On essaie d'aller explorer, par exemple, le bloc opératoire, montrer les cliniques externes, montrer toutes les possibilités. On va en maternité, en pédiatrie, santé mentale. On va aussi ailleurs, dans d'autres milieux. Parfois, on sort du CIUS pour aller montrer les autres options possibles pour les élèves. Les étudiants, là, ce qui les allume beaucoup, c'est quand on parle de nos propres expériences avec les patients, notre cheminement aussi, tout ce qu'on a vu. Fait que ça, des fois, ça les allume, puis ça déclenche quelque chose. Là, même des milieux de stage, des fois, ils pensent que, je sais pas, moi, le stage de chirurgie, c'est quelque chose qui leur tente pas du tout, ou santé mentale, qui est une spécialité. Puis quand on y arrive, là, on dirait que ça... Il y a quelque chose qui se déclenche en eux, puis ils sont super allumés par rapport à ça. Fait que des fois, c'est ça. Puis dès qu'on a soit des spécialistes ou des références qu'on peut amener de l'extérieur pour essayer d'aller chercher toutes les possibilités, tu sais, comme la médico-esthétique, là, on commence à en entendre parler sur le site de l'autre. Fait que ça, des fois, on commence, nous aussi, comme enseignants aussi, on essaie de rester à l'affût de ça pour pouvoir partager ça à nos élèves puis leur donner envie de trouver finalement leur voie.
Valérie nous parle donc, c'est l'exposition à différents milieux qui permet à la relève de découvrir les secteurs qu'ils désirent explorer davantage dans les débuts de leur profession. Valérie, quant à elle, m'a parlé d'une spécialité qu'elle a découverte et qui est devenue sa passion, la santé mentale.
C'est vraiment mon dada, j'adore la santé mentale, fait que c'est sûr que j'essaie de leur partager ça. Puis même ceux qui sont les plus réticents, je dirais, c'est quand même, il y en a qui sont pas à l'aise avec ça, mais j'essaie de leur montrer le beau de la santé mentale, dis que c'est pas... en dehors des tabous, des préjugés, que c'est autre chose aussi, la santé mentale. Ça fait plein de choses. Elle observe beaucoup les patients, elle crée un lien de confiance. La relation patient-infirmière est super importante. La médication, les rencontres individuelles, les suivis aussi avec le psychiatre. C'est vraiment, l'infirmière auxiliaire a vraiment un beau rôle en santé mentale.
En écoutant Valérie là, qui nous parle de sa passion pour la clientèle de santé mentale, ça me fait penser qu'on a tous eu un milieu, un secteur ou une clientèle là, qui nous a particulièrement fait triper. Moi, bien sûr, ça a été mon expérience des soins intensifs adultes, principalement donc soins intensifs chirurgie, traumatologique, puis toute l'expérience de don d'organes que j'ai eue comme infirmière ressource. Puis toi, Sophie?
Bien, ceux qui me connaissent savent que j'ai travaillé longtemps au bloc opératoire, puis oui, c'est un secteur que j'ai vraiment trouvé fascinant. Bien, c'est fascinant, varié, puis ça met vraiment de l'avant le travail d'équipe et interdisciplinaire. J'ai d'ailleurs côtoyé des infirmiers et des infirmières auxiliaires qui avaient une très grande vigilance, une approche avec les usagers qui était vraiment exemplaire. J'ai donc été vraiment contente de retourner au bloc opératoire pour rencontrer Vincent, qui est infirmier auxiliaire au bloc opératoire de l'Hôtel-Dieu depuis quelques années.
Bonjour, mon nom c'est Vincent Roy. Je suis infirmier auxiliaire présentement au bloc opératoire à l'Hôtel Dieu. Je suis ici depuis peu. J'ai commencé en 2023, donc ça fait à peu près 3 ans que je suis ici. C'est une collègue qui m'a parlé du bloc opératoire, parce qu'avant ça, je travaillais à Argyle, au centre des ventilés de l'Estrie, donc au 3e étage où on a les respirateurs artificiels. Donc, j'ai fait plusieurs années là. Donc, j'ai fait le pas pour venir voir le bloc opératoire. J'ai trouvé ça très intéressant, le bloc opératoire. Très stimulant. Puis, c'est pour ça que je suis resté, parce que à tous les jours, on voit des nouvelles techniques, des nouvelles approches, des nouvelles chirurgies. C'est très stimulant comme travail. On monte les tables, côté stérile, on assiste le chirurgien pendant l'opération. Donc, il y a tout le côté stérilité qu'on doit réapprendre puisque c'est pas la même chose qu'on apprend à l'école. Puis les instruments aussi, comme tous les noms, puis aussi comment les manipuler, comment les donner à un chirurgien, c'est pas la même chose que... Donc, on donne toujours un peu comme à l'inverse de ce qu'on prend. Donc, c'est tout réapprendre de les comment donner des choses... aux gens. Par rapport au patient, quand on voit le patient, on ne le voit pas beaucoup le patient. C'est sûr que la plupart de notre travail se fait quand le patient est endormi. Mais le premier contact avec le patient, c'est quand il arrive dans la salle d'attente puis qu'on le questionne pour savoir s'il a mangé, s'il n'a pas pris ses médicaments pour éclaircir le sang, tout ça. Mais je trouve ça important. C'est une petite part qui est super importante puisque la plupart des gens qui viennent ici sont super stressés. sont super anxieux, puis ils sentent c'est pas la meilleure des journées souvent quand on se fait opérer là. Ils ont besoin d'être rassurés. Les gens, ils sont insécures, tout ça, donc on est là pour les rassurer aussi. Donc on leur dit qu'on a une belle équipe, un bon chirurgien, une belle anesthésiste. Puis souvent, ben ça les rassure. Puis tout ça là, c'est, j'aime ce côté-là. Juste avant la chirurgie, ça me permet qu'on aide le patient, puis de pouvoir le rassurer. Je trouve ça important.
On pourrait voir le bloc opératoire comme un milieu qui a peu de contact avec les personnes usagères, mais Vincent nous démontre bien que l'écoute puis l'approche humaine avant une chirurgie, du moins, ça a un impact qui est déterminant dans l'expérience de soins de l'usager ou de l'usagère. Il y a l'unité de maternité aussi qui est également un secteur où l'approche humaine est indispensable, et ce, tant pour les futurs et les nouveaux parents que pour les tout petits usagers qui viennent de naître. Alors, on a rencontré Nadia, qui est une infirmière auxiliaire qui travaille en maternité. On l'a rencontrée justement pour en connaître davantage sur son rôle d'infirmière auxiliaire dans ce secteur.
Je m'appelle Nadia Boisquin, je suis infirmière auxiliaire depuis l'an 2012 et je travaille ici depuis 6 ans, presque 6 ans, en maternité là, sur le département. Le temps d'adaptation ici en maternité, ça peut prendre jusqu'à 4 mois avant qu'on puisse dire qu'on enfile nos espadrilles puis qu'on se sente vraiment à l'aise dans ce domaine-là. Puis à chaque nouvelle qui arrive, je leur dis, stresse pas, c'est normal. Ça va te prendre 3-4 mois avant d'être familière avec les procédures et tout ce qui existe. Mais tiens bon, ça vaut la peine de rester ici. Le travail d'une infirmière auxiliaire en maternité, c'est un rôle quand même extrêmement important. On est beaucoup présente dans le volet postpartum. Au départ, on vous assit toutes sur la chaise du postpartum parce que c'est le plus gros volet, c'est celui-là qu'il faut que tu apprennes. Puis tu as quand même 40 heures de formation de base pour l'allaitement, ce qui est quand même pas trop banal. Là. C'est bon, tu te donnes une chance. Fait qu'on part avec ça. Là, tu apprends auprès d'une autre infirmière ou infirmière auxiliaire à faire les tâches puis à accompagner les familles. On apprend l'allaitement. On apprend à faire les soins de la mère après l'accouchement. Quelles sont les surveillances importantes à faire? Tout le volet postpartum se veut dans l'accompagnement, dans l'enseignement, dans l'apprentissage pour les nouveaux parents. Ensuite, on nous donne l'accès à ce qu'on appelle au postpartum immédiat. Qu'est-ce que ça fait une infirmière auxiliaire en postpartum immédiat? Ça, c'est vraiment chouette. Parce que tu rentres, là, la mère vient de mettre au monde, ça fait à peu près 30 minutes. On sort les équipements non utiles, tout ça. Par la suite, on va pouvoir dégager l'infirmière pour qu'elle aille faire ses notes infirmières. Puis que nous, on va reprendre là où elle était, c'est-à-dire les pressions, les surveillances des saignements pour la maman. On va aider au premier allaitement, on va faire les signes vitaux du bébé, les traitements du bébé, on va le peser. Les traitements, c'est peser bébé, donner la fameuse vitamine K. Ensuite de ça, l'infirmière auxiliaire en maternité est appelée à aussi, de plus en plus, à aller travailler dans les grossesses à risque. Soit les gares, qu'on appelle. Ça ressemble beaucoup, à de la job d'étage, un peu. C'est-à-dire qu'ils sont là depuis un petit moment. Ils sont là pour un court moment ou un long moment, dépendamment de leur stade, dépendamment des facteurs pour lesquels ça les amène dans le secteur des grossesses à risque. Pour moi, c'est plaisant de les voir aussi dans les grossesses à risque parce que ça me permet d'installer des moniteurs pour le cœur fœtal du bébé. Ça me permet de les aider à pouvoir faire les signes vitaux, à faire les surveillances avec l'infirmière. T'sais, on doit collaborer avec l'infirmière. Donc, on collabore toutes les deux ensemble comme ça. Puis, on devient une excellente équipe. L'infirmière auxiliaire va pouvoir avoir vraiment un champ large en maternité. Et ça devient vraiment chouette.
Des accomplissements extraordinaires par des gens dévoués. Voici le coup de cœur de la DSI.
À l'occasion de la Journée des infirmiers et infirmières auxiliaires qui a été célébrée le 5 mai dernier, l'Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec, l'OIAQ, a produit une web-série qui s'appelle Alter Ego. Les épisodes d'environ 3 minutes chacun mettent en lumière des rencontres entre des personnalités publiques qu'on adore, Geneviève Evrel, Mélissa Bédard, Mélanie Ménard et Isabelle Brouillette, et des professionnels en soins infirmiers auxiliaires. Ils partagent en toute vulnérabilité comment ils sont unis dans leur histoire. Cette web-série démontre l'impact important que les soignants peuvent avoir dans des moments marquants de nos vies. Disponible sur le site de l'OIAQ, une web-série qui est touchante, humaine, manquez pas ça.
Soins sécuritaires, réontologie, L3S, acte réservé. Ai-je le droit?
le droit comme infirmier ou infirmière auxiliaire d'effectuer des soins auprès de la mère et du nouveau-né, et ce, dès la naissance? La réponse est oui. Le champ d'exercice infirmier auxiliaire habilite ces professionnels à la contribution à l'évaluation, mais sans établir d'exception selon le type de clientèle ou de milieu de soins. Ainsi, l'infirmier ou l'infirmière auxiliaire peut, par exemple, effectuer la surveillance utérine et les logis, mesurer les signes vitaux tant chez la mère que le nouveau-né, surveiller des symptômes de complications chez la mère, tels que la prééclampsie ou l'hémorragie postpartum, surveiller les signes et symptômes de complications aussi chez le nouveau-né, tels que la tachypnée transitoire du nouveau-né, d'administrer de la vitamine K par voie intramusculaire ou un antibiotique ophtalmique selon une ordonnance collective, procéder au prélèvement capillaire chez le nouveau-né, de même que prodiguer l'enseignement aux familles, tels que les techniques d'allaitement. Toutefois, considérant que la notion de contribution à l'évaluation se définit par le fait d'apporter une aide à une activité réservée à un ou une autre professionnelle qui est habilité au plan légal à exécuter l'activité d'évaluation, le personnel infirmier auxiliaire ne peut pas exercer cette activité en toute autonomie, mais bien en collaboration avec l'infirmière ou l'infirmier. Ainsi, il peut collecter les données objectives et subjectives, les inscrire au dossier, mais se doit de rapporter toute anomalie ou changement dans la condition clinique de la personne. À retenir que l'infirmier et l'infirmière auxiliaire engagent leur propre responsabilité professionnelle face à toute action ou décision qu'ils ou elles posent. Et ils et elles se doivent aussi de respecter les directives infirmières émises au plan thérapeutique infirmier s'il y a lieu.
Équité, diversité, inclusion. La Minute EDI avec Franck Boulaslage.
Le leadership inclusif. Un leadership inclusif consiste à créer un environnement où chaque membre de l'équipe se sent respecté et valorisé. Cela implique d'écouter activement, de reconnaître les biais inconscients et de favoriser la diversité dans les décisions. Par exemple, un gestionnaire qui consulte son équipe avant de mettre en place un nouveau protocole démontre une approche participative et inclusive. Les études montrent qu'un leadership inclusif renforce la cohésion dans une équipe et améliore la qualité des soins et services offerts. Les quatre piliers de cette stratégie sont la prise de conscience des préjugés, de favoriser le savoir-faire culturel, de reconnaître les privilèges et enfin, de diriger avec empathie. De nombreux outils et formations existent pour accompagner les professionnels vers le développement d'un leadership inclusif. Lorsque les pratiques inclusives s'ancrent dans la culture d'une organisation, quelque chose change profondément. L'inclusion cesse d'être un effort et devient un réflexe naturel. On en voit rapidement les effets, notamment une collaboration plus fluide, des décisions plus justes, un climat plus humain, et souvent, on ne souhaite plus revenir en arrière. Cette évolution ne commence pas nécessairement avec de grands bouleversements, elle naît plutôt de gestes intentionnels, cohérents et répétés. La question à se poser n'est pas comment tout changer, mais plutôt quels petits gestes, dès cette semaine, pourraient renforcer l'inclusion dans mon équipe et soutenir cette transformation durable. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la section EDI dans l'intranet du SUS de l'Estrichu.
Qui met fin à ce voyage au cœur de la diversité de la pratique infirmière auxiliaire. Les milieux intéressants qu'on aurait pu visiter sont presque infinis. Je tiens à remercier chaleureusement les infirmiers et infirmières auxiliaires qui nous ont généreusement partagé leur réalité, leurs expériences et leur quotidien.
Donc, merci plus spécialement d'abord à Nadia Boykins, Annick Lefebvre, Sonia, David Maillot, Karine Roy et Valérie Compagnat, de même que Vincent Roy, de nous avoir fait découvrir toute la richesse et la diversité de la profession infirmière auxiliaire à travers leur parcours de carrière et leur travail au quotidien.
J'espère que vous avez apprécié autant que nous le voyage. N'hésitez pas à explorer les milieux de pratique qui vous intriguent et qui vous intéressent. La diversité dans les milieux de soins, c'est une richesse de nos professions.
Donc, dans le prochain épisode de Savoir et Stéthoscope, on vous amène à explorer une réalité qui est malheureusement bien présente au Québec, c'est-à-dire l'itinérance. Donc, on va recevoir en studio deux professionnels de la santé, deux infirmières de notre SUS qui œuvrent auprès de cette clientèle en situation d'itinérance. Voici ce qui conclut ce balado de la Direction des soins infirmiers du SUS de l'Estrichu.
À la prochaine!
Le balado de la Direction des soins infirmiers du SUS de l'Estrichu, Savoir et Stéthoscope, est produit et réalisé entièrement par l'équipe de la DSI. Ce balado a été enregistré et monté dans les studios de CFAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. Merci à eux. À la prochaine pour plus de Savoir et Stéthoscope.